Chapitre 8. L'histoire ne finit pas en mariage. Et voici M. et Mme Pierre Royat rentrés à Paris, installés dans ce fameux numéro 17 rue Vaneau, mais au premier étage, dans les vieux meubles soignés acajou Louis-Philippe de Mme Amande, la bonne hôtesse qui fut une maman pour Pierre-Éric dans leur premier séjour. L'appartement comprenait 4 pièces, la chambre à coucher que Madame Gavenard, sur les indications de Madame Martin, avait fait meubler de neuf très moderne, cuivre, émail blanc, plaques de cristal biseauté et bleu pastel partout où la couleur était admise. Un petit cabinet de toilette avec baignoire, installation récente aussi, car Madame Amande, en vieille bourgeoise parisienne, tenait la baignoire pour un objet à peu près indécent qu'on ne doit point avoir chez soi et dont il sied de ne point parler. Avec cela, une petite salle à manger, un beau dressoir en acajou, une table ronde et bien polie, des chaises très dures, un papier de tenture couleur moutarde, cornet, 3 vieilles gravures en couleur représentant les pyramides d'Égypte au lever du soleil, à son coucher et au clair de lune. Un salon où 4 personnes assises et 2 debout pouvaient tenir, à condition de ne pas changer de place. Et le même style Louis-Philippe, velours jaune frappé, fauteuil à dos en lyre, régnait dans cette petite pièce. Pour finir, sur le même palier, la cuisine et une honnête chambre de bonne, du temps où l'on ne reléguait pas aux mansardes l'utile personne qui voulait bien vous servir. Dans cette chambre de bonne, le plus beau de l'installation, la merveille en temps de guerre, une bonne, et cette bonne était Eudoxie. Dans toute cette rue de petits rentiers, de petits bourgeois, de petits fonctionnaires retraités, ce ne fut qu'un cri quand on vit Eudoxie sortir avec son panier. « Vous avez vu, ils ont une bonne. Comment ont-ils fait ?» Assurément, Eudoxie n'était guère décorative, mais elle était imitative. En un clin d'œil, elle saisit le chic des quelques cuisinières qu'elle rencontrait dans les magasins ou à la boucherie. Elle prit le langage, le costume, les façons de Félicité, la cuisinière de Madame Gavenard. Elle se coiffa à cheveux perdus, suivant la mode du quartier. Bientôt, elle sut marchander à la mode de Clignancourt, qui n'était pas bien différente de celle de Bellegarde. Et quand elle achetait de la laitue, elle laissait deviner que toutes les façons de présenter la laitue, soit au jus, soit à la crème, lui étaient familières. Du reste, ce ne fut qu'au printemps suivant qu'elle acheta de la laitue. On était en novembre. Le délire de l'armistice était passé. Les uns disaient « il faut travailler », les autres disaient « il faut danser ». Lucette, soucieuse, apprenait son métier de maîtresse de maison. Les journées étaient trop courtes. Le matin, quand elle avait accompagné Pierre à son atelier, M. Gavenard lui avait cédé un petit bâtiment derrière l'usine, elle rentrait pour essuyer la jolie vaisselle du déjeuner, elle déballait les caisses de cadeaux que la douane avait laissé passer et, à chaque minute, elle courait à la cuisine pour montrer à Eudoxie un objet particulièrement ravissant. Toutes deux, en face des provisions, discutaient gravement s'il fallait mettre le veau en escalope ou en fricando. Eudoxie déclarait que monsieur préférerait l'escalope. Les goûts de monsieur faisaient loi pour Eudoxie et sa maîtresse ne l'en estimait que plus haut. C'était madame qui mettait le couvert afin de laisser Eudoxie à ses fourneaux jusqu'à la minute de perfection. Comme le quart d'heure venait vite d'aller chercher Pierre à l'atelier et de revenir à son bras, bavardant sans arrêt jusqu'à la porte, tout le quartier les suivait d'un œil attendri et chuchotait sur leur passage « Ils sont vraiment gentils, ces deux petits !» Seulement, il faut tout dire, plusieurs personnes les jalousaient d'avoir Eudoxie. On guettait Eudoxie comme on guetterait un canari qui s'envolera un jour de la cage et alors on mettra la main dessus. Parfois, autour des corbeilles de légumes, on la questionnait. Vous gagnez de bons gages, au moins. Vos jeunes maîtres ne doivent pas être riches, puisqu'ils logent en garni. Pas riches, rétorquait Eudoxie avec indignation. Vous devriez voir la villa des parents de madame. Où ça? Dans un pays à côté de la Suisse, un joli pays plat, sans rochers. Et vous devriez voir le linge qu'a la maman de madame, tout brodé à la main. Pas riche, Vous voulez dire pas nouveau riche, ça non, c'est du vieux riche, du solide, du cossu. » Or il se trouva qu'une madame nouveau riche, s'arrêtant pour demander le prix des pommes, entendit les propos naïfs de Doxy. Elle ne dédaigna pas de causer avec cette petite créature, vêtue d'une jaquette tricotée en laine vert-bouteille et d'une jupe à rayures directoire noir et blanc, à l'instant de Mademoiselle Félicité des Gavards. « On dit que vous êtes bonne cuisinière et que même vous faites les menus, » commença Madame Nouveau-Riche, dont le vrai nom était Madame Isidore Bougnat. Son mari avait fait une fortune exorbitante et foudroyante dans le commerce des combustibles. Ils avaient un fils et une fille, promises aux plus hautes destinées, et ils s'étaient installés tout récemment dans une maison immense, une vieille demeure au milieu d'un petit parc, qui avait été autrefois la maison des champs d'un gros financier du temps de Louis XV. Pour la meubler en style, il suffisait d'un fournisseur. Mais y mettre le personnel domestique nécessaire, c'était une autre histoire. Et ce fut une histoire, en effet, qui commença par ce premier dialogue avec Doxy. « Je donnerai 300 francs, j'irai jusqu'à 400 pour avoir une bonne cuisinière, » prononça Madame Isidore Bougnat à demi-voix. « J'ai plus que ça, » déclara Eudoxie imperturbable. « Plus que ça, vous m'étonnez. » « J'ai 720, madame. »« Par mois ?»« Ah non, par an. »« Mais moi, je donnerai 300 par mois, comprenez-vous »« C'est un beau gage, vous trouverez avec ça. »« Ça ne vous tenterait pas ?»« Moi, je suis placée, » fit Eudoxie avec un sourire supérieur. « Je suis chez des personnes très bien, qui ont beaucoup d'éducation, qui ne chercheraient jamais à tirer une bonne de chez ses maîtres. » « Ce que j'en disais, c'était pour causer simplement, » fit Madame Bougnat très vexée. « Vous ne me conviendriez pas du tout. Il me faut un vrai cordon bleu. » Lucette s'amusa beaucoup de cet épisode quand Eudoxie le lui narra. Cependant, sa conscience l'obligea à dire « Vous savez, Eudoxie, que je ne voudrais pas vous empêcher de gagner ces gages fous. » « Je lui ai dit à la bonne femme que je tiens à être chez des personnes d'éducation. C'est pas pour aller chez elle. Oh là là, j'aimerais autant retourner chez Anzouli. » Peu à peu, Lucette faisait quelques connaissances. Quand elle descendait chez Madame Amande pour lui demander un conseil, elle y rencontrait souvent une voisine, bonne commère, ou bien un vieux couple de retraités, une vieille institutrice qui avait dirigé pendant 30 ans l'école maternelle du quartier. Et c'est ainsi que Lucette apprit à connaître les adversités et les épreuves diverses de deux catégories sociales nées de la guerre, les nouveaux riches et les nouveaux pauvres. Comme nouveaux riches, il y avait surtout les Bougnat, et les nouveaux pauvres cherchaient à grignoter les miettes abondantes tombées de leur grasse table. Madame Dussol, l'institutrice, était engagée comme secrétaire chaque matinée pour écrire les lettres de Madame Bougnat et pour lui donner des indications discrètes de tenue, de langage, d'usage du monde. Tandis que le couple Bertin, qui vivait gentiment avant la guerre d'une rente de 2000 francs, entrait en qualité de concierge au château Pompadour. Eux-mêmes ne disaient pas concierge, mais employés de confiance. Cependant, le père Bertin n'en frottait pas moins l'escalier, tandis que sa femme, tricotant au guichet de sa loge, surveillait les entrées et les sorties et répondait aux coups de sonnette des fournisseurs. Dès que les froids arrivèrent, le château Pompadour fut luxueusement chauffé par un chauffage central. Alors, les amis de Madame Bertin prirent l'habitude de se réunir à 10 ou 12 dans la loge spacieuse où le thermomètre marquait 18 centigrades. Madame Bougnat, qui avait peur de l'opinion, n'osait disperser ses rassemblements, les saluait même d'un signe de tête affable en passant dans le grand vestibule de marbre gris, orné de médaillons, de guirlandes et de rubans en bronze doré, des merveilles. Ainsi, pour tout ce coin de Saint-Ouen, le château devint un chauffoir public et bientôt, la loge ne suffisant plus, on vit des pliants, des corbeilles à ouvrage, des tricoteuses et des brodeuses dans les recoins du vestibule, derrière les statues, les torchères, les caisses de palmiers et d'orangers. M. Bougnat en prit courageusement son parti et informa ses connaissances que sa femme avait installé un ouvroir de guerre au château. Lucette contait toutes ces petites histoires à Pierre qui, à vrai dire, avait bien d'autres choses en tête. Il organisait son atelier avec l'aide d'un ouvrier expert, un brave garçon, fils de l'honnête vieux Clément, camionneur de l'usine. Pierre fit du jeune Clément son contremaître, mais le reste du personnel mécanicien devait, autant que possible, être enrôlé parmi les aveugles de guerre, anciens mécaniciens ou tourneurs, auxquels le travail de pièces en série convenait parfaitement. On allait commencer par la fabrication du datteur pour Kodak, dont la vente était assurée et qui demandait peu d'outillage. Pour la magnéto, il fallait trop de machines. Pierre avait vendu le brevet de son invention à l'usine Martin et Gavenard. Et ce petit capital lui permettait de monter son atelier à ses frais.